Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Dans 20 minutes, je recevrai un écrivain engagé, militant de la paix, Marek Alter, un intellectuel à part qui publie un petit livre intitulé « Un monde sans prophète » dans lequel il s'inquiète de la disparition de ces figures charismatiques. Il nous dira pourquoi il est de plus en plus difficile de trouver aujourd'hui des femmes ou des hommes capables de porter des messages et de faire bouger les choses et pourquoi ça l'inquiète beaucoup, surtout dans le contexte actuel. Rendez-vous avec Marek Alter donc à 18h20. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra sur le coup de pression du gouvernement qui implore les soignants de se faire vacciner. Leur réticence pourrait compromettre la lutte contre le virus. Doit-on rendre cette vaccination obligatoire? Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des idées d'Europe Soir. Et ce soir, on va vous parler des dérives sectaires. Comment la pandémie amplifie le phénomène? Comment des gourous surfent sur nos peurs pour nous manipuler en prétendant s'intéresser à notre santé, notre bien-être? Des sectes d'autant plus insidieuses qu'elles ne sont pas forcément faciles à repérer. Faux thérapeute, faux coach, attention, danger. Mais avant cela, c'est l'info avec le journal présenté par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Quand on est danseur, on est élève jusqu'à la fin de ses jours. En fait, jusqu'au dernier jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et ça demande une énergie absolument colossale. Et je suis heureux d'apprendre ça, je suis content comme tout.
Patrick Dupont est mort, l'ancienne étoile de l'opéra de Paris et de la danse est décédé cet après-midi à l'âge de 61 ans.
On lui rendra hommage dès le début de ce journal, on reviendra sur le parcours d'un homme qui a eu plusieurs vies, danseur bien sûr, mais aussi plus jeune directeur du ballet de l'opéra de Paris, une icône que le destin n'a pas ménagée.
La lettre d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, demande par écrit au personnel soignant de se faire vacciner contre le Covid. Le virus est devenu le principal vecteur d'infection nosocomiale à l'hôpital et dans les EHPAD.
Que se taisent les armes, ce sont les premiers mots du pape François à son arrivée tout à l'heure sur le sol irakien. Déplacement à haut risque, mais très fort en symbole.
Bosch acte la chute des ventes de moteurs diesel. L'équipementier va supprimer 750 emplois dans son usine de Rodez en Aveyron.
La fin du Vendée Globe. Cette fois, c'est vraiment fini avec l'arrivée du tout dernier concurrent. C'est un Finlandais de 58 ans qui a bouclé ce tour du monde à la voile en 116 jours. Et c'est une performance quand on sait que ce navigateur est en réalité un pilote d'avion de ligne dans le civil.
La bourse de Paris termine en baisse de 0,80%. 2% à 5782 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
La météo dégradation prévue pour demain dans le sud.
Oui, puisque le soleil est de retour sur la moitié nord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec un temps très lumineux, mais toujours cette bise qui souffle et qui nous donne froid. Sur la moitié sud, nuages, averses et neige en montagne. C'est le programme pour demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une étoile vient donc de nous quitter. Patrick Dupont est mort cet après-midi à 61 ans. La danse père ingénu est l'une de ses figures les plus connues dans le monde.
Oui, Patrick Dupont qui a connu la consécration à 21 ans en devenant danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'est un personnage, une personnalité atypique, volontiers indisciplinée, mais avec un charisme fou et un don qui ont séduit les plus grands chorégraphes, Diane Genouda.
Oui, l'enfant terrible de la danse a travaillé avec les plus grands noms. Hein. Nourrieff, Béjart, Roland Petit, danseur surdoué. Patrick Dupont passe par la voie classique, l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et puis à 21 ans, c'est la consécration. Il est nommé danseur étoile. Son physique de jeune premier, sa personnalité flamboyante, son style félin font très vite de lui une star de la danse. Béjart lui offre un de ses plus grands rôles de danseur travesti dans Salomé en 86. Puis il devient patron de la danse à l'Opéra de Paris, mais ça se termine mal. Il sera licencié pour indiscipline. Commence alors une période noire pour Patrick Dupont. En 2000, il est victime d'un grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie. Puis il revient après 10 ans d'absence, l'histoire d'une renaissance.
On m'avait dit marcher peut-être, mais danser jamais. Et ma première réaction, c'était de dire non. Non, je n'accepte pas. J'ai demandé de la musique, on m'a apporté un petit poste de radio. C'était le boléro de Ravel, un clin d'œil de Maurice Béjart dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai su à ce moment-là que j'allais redanser en fait. C'est magique, c'est l'histoire d'un rêve.
À 52 ans, Patrick Dupont redanse avec la même flamme qu'à 20 ans. Il joue dans une comédie musicale, un air de Paris, il touche à la télé-réalité, devient juré dans l'émission Danse avec les stars en 2018. Et ces dernières années, il s'était installé à Soissons, il montait des spectacles de danse classique et orientale. Aujourd'hui, a déclaré celle qui travaillait avec lui, il s'est envolé pour danser avec les étoiles.
Merci Diane Chenouda pour cet hommage en direct. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Avec nous, l'ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, Brigitte Lefèvre, avait d'ailleurs succédé à Patrick Dupont.
Bonsoir Brigitte Lefèvre.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. On a beaucoup dit de Patrick Dupont qu'il avait révolutionné la danse. En quoi, selon vous, était-il différent des autres danseurs ?
Ben vous savez, il a évolutionné la danse, mais moi j'ai eu la chance, comme vous le dites, de diriger cette compagnie. Et d'ailleurs, juste après Patrick, avec qui j'étais restée en bonne relation, c'est une constellation, chacune a sa lumière, mais la sienne était vraiment particulière. Moi, à cet instant précis, je pense à lui, petit garçon, je suis plus âgée que lui, et je le revois, ce petit garçon beau, coquin, je le revois avec son copain Jean-Marie Vidiac, qui faisait des blagues sur la direction de Claude Bessy, qui ne l'appréciait pas tout le temps, mais en tous les cas, enfin, qu'il adorait, mais ce qui est formidable, c'est de voir toute cette potentialité qu'il avait dès le départ. D'abord, vous savez, c'est pas démocratique là-dedans, c'est démocratique par rapport à ceux qui peuvent y venir, ce n'est jamais assez, mais il faut choisir, il y a des critères, il avait tous les dons. Il avait tous les dons, il a la sympathie, il a eu très vite d'ailleurs un charisme, vous avez fait un très bon sujet à l'instant même, le charisme auprès du public, il voulait sauter plus haut que les autres, il voulait tourner plus que les autres, il voulait tout, Patrick, et c'est formidable, on peut presque dire trop. Parfois, ça faisait penser un peu à Icare qui se brûle les ailes en voulant se rapprocher du soleil, mais ça lui était égal.
Brigitte Lefèvre, mais c'est un personnage qui donne le sentiment d'avoir eu plusieurs villes. Le destin ne l'a quand même pas toujours aidé. Hein.
Non, et il n'a pas toujours aidé son destin non plus. Et à trop vouloir, parfois, c'est difficile, mais on lui proposait aussi beaucoup de choses. On lui proposait aussi par sa notoriété, par cette formidable sympathie qu'il avait auprès du public. Voilà, il n'était pas, c'est pas quelqu'un de facile. D'ailleurs, aucun danseur, aucune danseuse, d'ailleurs, aucun être humain, d'ailleurs, n'est facile. Mais il transformait tout. C'est un être bondissant. Et c'est joli ce que dit sa compagne Leïla, qui parle de sauter pour rejoindre. Oui, c'est vrai, c'est un peu romantique, mais c'est un personnage romantique, Patrick.
C'est ce qu'on va retenir de lui ce soir, effectivement, cet être bondissant, charismatique, romantique. Merci beaucoup, Brigitte Lefèvre, ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, pour cet hommage en direct ce soir sur Europe 1 à Patrick Dupont, qui vient de disparaître à 61 ans. Dans l'actualité également, ce soir, le gouvernement qui compte donc sur une accélération de la vaccination pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid.
Le Premier ministre et le ministre de la Santé l'ont encore rappelé hier. L'objectif tient en deux chiffres. 10 millions de Français doivent avoir reçu une première injection d'ici la mi-avril. 30 millions d'ici l'été. Et pour cela, n'hésite pas à ressortir des frigos les doses d'AstraZeneca non utilisées mais encore valables. Convaincre les Français ne sera pas trop difficile. En revanche, Isabelle, pour les soignants, ça c'est une autre paire de manches.
Oui, c'est un enjeu stratégique même. Hein. 30% des soignants seulement sont aujourd'hui vaccinés contre le virus. Pour l'instant, il n'est pas encore obligatoire, ce vaccin, mais il pourrait le devenir. Et avant d'en arriver là, Mathieu Charrier, Olivier Véran veut convaincre les réticents.
Oui, et pour cela, il leur a envoyé une lettre il y a une demi-heure. Je l'ai ici, les mots sont clairs, elle fait une vingtaine de lignes. Après un premier paragraphe, pour remercier les professionnels de santé mobilisés sans relâche, dit-il, face à la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, le ministre de la Santé rentre dans le dur. Il leur rappelle que seulement 30% d'entre eux dans les établissements de santé sont vaccinés, 40% dans les EHPAD, un chiffre encourageant mais qui progresse trop peu selon Olivier Véran, alors que les stocks de vaccins AstraZeneca sont là. Il y a ensuite cette injonction, je vous le demande pour vous-même, votre entourage, les Français, si vous n'êtes pas encore vaccinés, faites-le rapidement, il en va de notre sécurité collective. Le message est clair, le ministre ne menace pas encore de rendre cette vaccination pour les soignants obligatoire, même s'il n'a pas fermé la porte à cette éventualité. Je vous rappelle que le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a des gens hospitalisés pour d'autres pathologies et qui ressortent avec le Covid. Olivier Véran signe sa lettre bien confraternellement, soulignant au passage que lui-même est médecin et que vous vous en rappelez, il s'est fait vacciner.
L'exécutif dit vouloir accélérer, mais est-ce qu'on a un calendrier précis des prochaines semaines?
Alors oui, il y a plusieurs objectifs. D'abord, que 10 millions de Français aient été vaccinés d'ici le 15 avril. Ça veut dire en gros 1 million d'injections par semaine. On doit donc accélérer, mais ça devrait être rendu possible par les livraisons de vaccins qui vont s'intensifier. 22 millions, par exemple, de doses attendues sur les mois de mars et avril. C'est trois fois plus qu'en janvier, février. Ça, c'est donc le premier objectif, tout simplement pour que les personnes les plus à risque soient protégées à la mi-avril et pour pouvoir desserrer un peu les taux. Ce sont les fameuses 4 à 6 semaines à tenir. Ensuite, le gouvernement veut faire en sorte qu'en mai, 20 millions de Français aient reçu leur première vaccination. Ça veut dire l'ensemble des plus de 50 ans volontaires. Et enfin, d'ici l'été, objectif, 30 millions de Français vaccinés, soit la majorité des volontaires en âge de l'être, ce qui pourrait laisser d'envisager un été avec un peu moins de restrictions.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? On y reviendra tout à l'heure avec les grandes voix d'Europe 1 à partir de 18h30. Dans le Pas-de-Calais, les habitants sont donc contraints de rester chez eux depuis maintenant 8 minutes, hein, Christophe.
Et 41 secondes, c'est le premier des 4 week-ends de confinement à imposer au département. Interdiction de sortir jusque lundi matin, 6h, sauf motif impérieux.
Vous savez que Paris et l'Île-de-France ont échappé à la mesure, mais dans la capitale, le préfet de police veut empêcher les attroupements et les apéros en bord de Seine ou sur certaines grandes places.
Il vient de prendre un arrêté qui interdit la consommation d'alcool le long des quais de Seine, du canal Saint-Martin, entre 11h et 18h. Attention, certaines rues et certaines places sont également visées par cet arrêté qui s'étend jusqu'au 21 mars.
Dans l'actualité aussi, à Marseille, un homme armé d'un couteau a finalement été interné après son interpellation. C'était à proximité d'une école juive.
Il s'agit d'un homme de 60 ans qui est sorti de son véhicule avant de se diriger vers cette école du 13e arrondissement. Il a été rapidement maîtrisé et interpellé. Son état psychologique n'était pas compatible avec son maintien en garde à vue. Il a effectivement été transféré dans un hôpital psychiatrique. Et puis dans l'enquête sur la violente agression d'un photographe à Reims, on apprend ce soir qu'un deuxième suspect est en garde à vue. Il s'est spontanément présenté aux policiers.
C'est historique, c'est un événement pour les chrétiens. Le pape François est arrivé aujourd'hui à Bagdad, en Irak.
Un déplacement plus que symbolique, une visite de 3 jours auprès de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Le pape François a rencontré les responsables politiques et religieux dans un pays ravagé par la guerre et la crise. Il s'est aussi rendu dans la cathédrale de Bagdad. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial en Irak.
Oui, c'est une visite en forme d'hommage aux victimes du pire attentat antichrétien du pays. 48 personnes tuées en pleine messe. Cathédrale qui sonnait un peu creux car une poignée de personnes a été choisie pour assister à cette cérémonie. Ce n'est pas la sécurité qui est en cause, mais la pandémie. Quelques minutes plus tôt, le pape François donnait le ton de sa visite.
Après une crise, reconstruire ne suffit pas. Il faut s'appliquer à bien le faire pour que tout le monde ait une vie digne. On ne sort pas tous égaux d'une crise. On en sort soit meilleur, soit plus mauvais. Mettons fin à la violence, mettons fin aux extrémismes.
Sur son trajet, quelques fidèles ont bravé le confinement pour l'apercevoir. Un bref instant passé devant eux dans une berline noire, seule une main dépasse. Mais ça suffit pour réjouir Mariam qui a suivi la journée devant sa télé.
Je l'ai vu arriver et pour moi je considère que c'est un miracle qu'il soit là avec nous en Irak. Il y a quelques semaines encore, c'était impensable d'imaginer qu'il puisse venir jusqu'ici. Cette fois, ça y est.
Ça y est, 3 jours sur les traces d'Abraham, le patriarche des 3 grandes religions monothéistes. Des traces que François dit vouloir suivre comme un pénitent qui vient demander pardon.
Jean-Sébastien Soldaini, qui est donc l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, l'usine Bosch de Rodez, licenciée victime de la désaffection pour les voitures diesel.
Et puis le Vendée Globe, c'est fini, le dernier concurrent vient de rentrer au port. On peut même dire qu'il a atterri.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h13, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec ce choc à Rodez après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois à l'usine Bosch.
Oui, l'équipementier spécialisé dans les injecteurs et les bougies pour moteurs diesel veut supprimer 750 emplois d'ici 2025. Et c'est bien la chute des ventes de voitures diesel qui explique en grande partie cette décision du groupe. Olivier Samin.
Oui, les Européens se détournent des véhicules diesel et l'usine Bosch de Rodez en subit le contre-coup. Entre 2018 et 2020, la production d'injecteurs diesel a été divisée par 2 à Rodez. Et la situation depuis s'est aggravée avec la crise mondiale et l'épidémie de Covid. Voilà comment la direction du groupe justifie l'annonce qu'elle a faite ce matin aux représentants du personnel. Mais le groupe Bosch affirme sa volonté de maintenir l'activité industrielle sur le site et mise pour cela sur la diversification qui a été amorcée il y a 2 ans. Il n'empêche... Les syndicats parlent ce soir de trahison. En 2018, 3 d'entre eux avaient signé un accord de transition prévoyant des efforts des salariés sur leurs jours RTT et leurs primes d'intéressement, en contrepartie de plusieurs millions d'euros d'investissement sur le site. Pour Jean-Pierre Cabrol, délégué sud de l'usine, les promesses n'ont pas été tenues.
C'est une trahison parce que, avec tous les engagements que les salariés avaient pris pour faire des efforts et donner un avenir à ce site, on s'était donné du temps et on voit que la direction nous abandonne et on est vraiment écœurés là.
Pour les syndicats, c'est tout un pan du savoir-faire de cette usine, la plus grosse du département, qui est vouée à disparaître.
Les précisions d'Olivier Samin du service Éco d'Europe 1. Et puis ça y est, il est arrivé le 25e et tout dernier concurrent du Vendée Globe qui a enfin touché terre ce matin.
Ben oui, après 116 jours de navigation en solitaire, Harry Usella est donc rentré au Sable d'Olonne. On peut même dire qu'il a atterri puisqu'il est pilote de ligne dans le civil. La fin d'une épopée pour un homme vraiment atypique, Corinne Boulou.
Accueilli en héros, Harry Usella, ce matin au ponton d'honneur. Lui qui avait troqué le temps d'un tour du monde sa casquette de commandant de bord au sein de la compagnie Finnair pour celle de capitaine au long cours. Cette passion de la mer, il la cultive depuis une première traversée de l'Atlantique il y a une vingtaine d'années. Il a décidé de se lancer dans l'aventure Vendée Globe en achetant sur ses propres deniers son voilier de 18 mètres, désormais en vente. Harry Usella, à 58 ans, c'est la force tranquille. Et s'il a trouvé parfois le temps long à bord, il est toujours resté positif, heureux de partager notamment ses nombreuses photos de coucher de soleil. De beaux souvenirs d'une sacrée aventure pour le Finlandais. Le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, arrivé 36 jours plus tôt, lui rend hommage.
C'est un beau défi qu'il a fait. Ça a dû certainement être plus dur pour lui au final que pour moi. Donc je trouve que Harry a fait un très 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 beau parcours. Et puis c'est bien que tout le monde soit rentré au port sans trop de pépins, sans trop de casse. Donc tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne en course ou hors course, pour moi, sont victorieux.
Et c'est donc Harry Usella, aujourd'hui véritable phénomène en Finlande, qui referme le livre d'une édition record. 80% des bateaux au départ ont réussi à terminer leur tour du monde, du jamais vu. Rendez-vous maintenant dans 4 ans.
Voilà, rendez-vous est pris. Merci Corinne Boulou.
Bravo à tous ces champions et merci à vous Christophe Lamar. On vous retrouve à 18h30. Anissa Haddadi, un temps agréable demain dans le nord, mais ça sera plus instable dans le sud.
Oui, alors on va commencer par les mauvaises nouvelles Isabelle. Du Poitou-Charentes jusqu'à la Bourgogne, nous avons quelques nuages qui circulent tout au long de la journée. Dans le sud-ouest, des Pyrénées jusqu'à l'Auvergne et même jusqu'aux Alpes et en Provence. Les nuages sont très nombreux demain avec des brouillards le matin et des averses fréquentes tout au long de la journée. Dans les Alpes et les Pyrénées, il neige à partir de 1500 mètres d'altitude. La bonne nouvelle, elle se trouve au nord de la Loire, de la Bretagne aux Ardennes en passant par la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne. Le temps est lumineux, ensoleillé, très agréable mais froid puisque la bise souffle encore demain. On va avoir froid et les températures baissent, moins 4 à Épinal, moins 3 à Nancy, moins 2 à Montluçon, moins 1 à Lille, 0 pour Paris et 8 à Nice demain matin. Au meilleur de la journée, nous aurons 7 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 14 sur la moitié sud et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant sur Europe 1, un écrivain et un homme de paix, je reçois Marek Alter. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Europe 1, 18h20, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir l'écrivain Marek Alter. Bonsoir Marek Alter.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour nous parler notamment de votre nouveau livre intitulé Un monde sans prophète, qui vient tout juste de sortir dans la collection Alerte de l'éditeur Hugo Doc. Alors votre regard Marek Alter est important, en particulier en ces temps troublés. On sait que vous menez depuis toujours un combat pour la paix, vous êtes un fervent défenseur du dialogue intercommunautaire, vous êtes à l'origine des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Je voudrais qu'on comprenne pourquoi d'abord, si vous le voulez bien, pourquoi vous avez consacré ce livre aux prophètes. Et c'est quoi un prophète pour vous, Marek Alter? Parce que j'ai l'impression en lisant votre livre que votre définition, elle est très large hein, finalement.
Non, pas tellement. Ce sont des gens, vous savez, c'est né en 1030 avant notre ère. Et quand le peuple a demandé aux derniers des juges, c'est dans la Bible, tout le monde peut le consulter. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est de l'histoire. Le peuple vient voir les derniers juges, il dit « Nous voulons un roi ». Il dit « Mais vous êtes tout à fait fous. Pourquoi voulez-vous un roi ? Parce que tous les peuples ont un roi et nous voulons un peuple, nous voulons aussi un roi. » Et lui, il leur explique qu'il n'y a pas de bon roi. Tout roi qui n'est pas contesté, qui n'est pas contrôlé, va devenir un roi, disons, totalitaire.
Autoritaire, totalitaire, oui.
Ben oui. Donc, il y a 1030 avant notre ère, ils ont tout compris. Mais comme le peuple voulait un roi, donc il lui donne un roi, on peut le voir sur la façade de Notre-Dame de Paris, on voit les 28 rois d'Israël et du Juda, et le premier à gauche, c'est Saül, c'est le premier roi. Et quand il leur a donné le roi, il a compris qu'il y a un danger. Il y a un danger. Le peuple sera écrasé sous les impôts, exploité, etc. Et il crée la première école des prophètes. C'est quoi? on apprend aux gens intègres qui n'ont pas d'ambition politique, qui ne veulent pas prendre la place du roi, qui ne veulent pas s'enrichir, mais qui aiment la justice. Et Deutéronome, il dit « Justice, justice, tu poursuivras ». C'est tout ce qu'ils veulent.
Donc c'est ça un prophète, hein. C'est pas forcément associé à Dieu, mais ça a effectivement ce côté justice, très droit, cette droiture.
Justicier.
Alors il y a les prophètes bibliques, hein, évidemment, et puis il y a les prophètes des temps modernes.
Exact.
C'est quoi un prophète des temps modernes? C'est un lanceur d'alerte?
Parce que jusqu'à un moment, bon, tant que le monde était géré par les religions, donc les prophètes se disaient les porte-paroles des dieux. Parce que c'est Dieu nous a créés tous les mêmes, égaux. C'est-à-dire qu'on soit noir, jaune, etc. Bon, peu importe, on est des humains, on est ses enfants. Et puis, Nietzsche a annoncé la mort des dieux. Donc, à partir de là, il y a des prophètes laïcs. Jaurès était un prophète laïc.
Oui.
Mais être prophète,
l'abbé
c'est
Pierre
dangereux.
Était un prophète laïc, par exemple?
Zola était un prophète laïc. Voltaire était un prophète laïque. Voltaire, qu'est-ce qu'il fait? Il défend les protestants qu'il n'aime pas, qu'il les déteste. Pourquoi il les défend? Parce qu'ils ont droit de s'exprimer comme tout le monde.
Donc un prophète doit être désintéressé, tenter de nous éclairer, prendre des risques, notamment celui d'être impopulaire,
bah oui,
être un porte-parole.
Être tué, même Jaurès s'est tué.
Voilà,
Zola
avoir
aussi.
Un désir de justice. Pardon, mais c'est tout vous ça finalement, Marek Alter? Vous êtes un prophète?
Non, je suis pas. Je ne suis pas un prophète. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je pense que ce livre est un cri d'un homme moderne. Bon, les prophètes, quand même, pour ceux qui nous écoutent, n'a pas beaucoup de temps, veut dire en hébreu Nabi, qui vient des mots acadiens Nabou, le cri. C'est un homme qui crie. L'abbé Pierre, hein, on l'a invité à la radio, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse un cri, au secours! Les gens meurent, c'est tout. C'est ça le travail des prophètes.
Prophète, oui.
C'est de réveiller les gens. Alors les hommes politiques qui ont la chance d'avoir un prophète d'envergure en face d'eux restent dans l'histoire. Et les hommes politiques qui n'ont personne en face d'eux, même s'ils sont bons, ils ne resteront pas dans l'histoire.
Alors je vous prends au mot, Emmanuel Macron, il a un prophète en face de lui en ce moment?
Malheureusement, pas pour l'instant.
Bon.
Il n'y a pas. Napoléon avait Chateaubriand. Chateaubriand n'aimait pas Napoléon. Mais Napoléon a essayé d'être à la hauteur de Chateaubriand. Louis XIV avait Saint-Simon. César avait Cicéron. Il y a toujours quelqu'un. Il y a Alexandre le Grand avait Aristote. Et même le général de Gaulle, il achetait un journal, l'hebdomadaire, l'Express, pour voir ce qu'il pensait. Mauriac.
Ouais, il faut avoir toujours quelqu'un en face de soi,
Camus.
C'est ça, pour nous aider à grandir encore.
Exactement.
Plus. Ouais. En préambule de votre livre, Marek Alter, vous dites que nous entrons dans un monde sans prophète. C'est assez terrible comme constat, parce que quand on vous écoute ce soir sur Europe 1, on comprend bien qu'on en a besoin de ces prophètes. Hein.
Tout à fait.
Et alors, c'est qui les nouveaux prophètes?
C'est un moment difficile et dangereux. Ça veut dire, moi, ce que je peux faire seulement, c'est des réveiller les gens. Parce que quand il n'y a personne pour nous donner de l'espoir, qu'est-ce qu'on fait? On a peur. Il y a l'épidémie, nous
cette
portons
peur,
le
oui,
masque
qui est
deux.
Parmi nous en ce moment, oui. Et ça,
nous
ça vous inquiète beaucoup.
Nous avons peur. Nous ne savons pas quand ce que cette épidémie va s'arrêter. Après, elle va s'arrêter. On nous dit déjà qu'il y aura une crise économique. Comment nos enfants vont aller à l'école? Comment ils vont étudier? Quel sera le monde qui... Quand ils vont grandir, quel sera leur monde?
La jeunesse, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup.
Bien sûr.
Ouais. Dans cette crise, en fait, on est tous sur le même bateau, hein, dans tous les pays du monde. Vous écrivez que c'est l'occasion de se serrer les coudes, de faire disparaître le rejet de l'autre, la haine. C'est beau, mais c'est utopique.
C'est difficile. C'est difficile, surtout parce qu'on est en pleine solitude. Et les confinements nous séparent les uns des autres. Alors, comment est-ce qu'on sort des confinements? Par la violence. Regardez les mômes. Hein, ils ne vont pas à l'école. Hein, on les enferme chez eux. Ils se réunissent clandestinement. Ils vont s'attaquer à d'autres mômes. c'est une aventure. Moi, j'étais un petit voleur pendant la guerre. Donc, je sais ce que c'est. Après, on a des souvenirs. On a quelque chose à raconter. Autrement, personne ne nous propose une aventure.
Oui, on sent que ça vous inquiète beaucoup, ça, Marek Alter. Et vous vous inquiétez aussi, vous nous parliez tout à l'heure des rois. Vous vous inquiétez aussi de l'émergence de pouvoirs autoritaires à travers le monde.
Hein. Bien sûr, parce que cette violence qui apparaîtra aux yeux de beaucoup comme la seule expression possible pour sortir de la solitude, poussera certains chefs d'État à durcir leur régime, à durcir la police, à opprimer, à contrôler. Bon, nous, on a une chance. Aujourd'hui, nous sommes quand même, avec toutes les critiques qu'on voit, qu'on lit dans la presse, quand même une démocratie. Bon, j'étais agressé la nuit,
oui,
la veille de la sortie de mon livre. On ne sait pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave, je me suis battu, j'ai un petit peu mal au dos. Mais le président de la République m'a appelé. C'est-à-dire que ça n'arriverait pas dans beaucoup de pays du monde, surtout appeler un métèque comme moi et qui dit ce que j'ai dit, puisque j'ai dit qu'il n'y a personne en face de ce président.
Oui.
Et moi, je ne vais pas prendre la place qui ne me revient pas. Je ne suis pas un prophète.
Vous ne voulez pas être ce prophète en face d'Emmanuel Macron, ça on l'a bien compris. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur c'est l'actualité du jour, c'est historique, cette visite du pape en Irak. Ouais.
Ah, c'est très important, c'est très important. Mais en même temps, ça nous renvoie à notre responsabilité. Imaginez-vous, le christianisme est né là-bas. Ur, où est né Abraham, c'est le monothéisme, c'est l'Irak. La secte de Damas, c'est là où Jésus allait apprendre. Saint Paul, quand il voit l'apparition de Jésus, il est où? Sur le chemin de Damas. Ça veut dire qu'il va dans la direction où est allé le pape.
Donc c'est un symbole vraiment très fort, cette visite. Oui, il n'y a plus de chrétiens.
Nous les avons abandonnés. Et pourtant, c'est le contraire à la pensée du Coran. Qu'est-ce qu'il dit Mahomet ? Mahomet, il dit « Respectons les gens qui croient, même s'ils ne croient pas dans le même Dieu ».
Ce sera malheureusement le mot de la fin, Marek Alter, parce que c'est très beau tout ce que vous nous dites, mais je pourrais vous garder une heure avec
mais
nous.
Enfin,
vous reveniez
nous
sur
nous
Europe
1.
Voilà, je voudrais juste rappeler le titre de votre livre, Un monde sans prophète, aux éditions Hugo Doc. Merci infiniment, Marek Alter.
Merci
dans un instant,
vous.
Ce sera le rappel des titres de l'actualité et puis les grandes voix du vendredi. À tout de suite sur Europe 1. 18h32, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
La mort d'une étoile de la danse, l'ancien danseur étoile Patrick Dupont est décédé aujourd'hui à 61 ans des suites d'une maladie foudroyante. C'est ce qu'indique ce soir son entourage. Depuis une demi-heure, les habitants du Pas-de-Calais vivent le premier de leurs 4 week-ends de confinement. Interdiction de sortir jusque lundi matin 6h, sauf motif impérieux. Un deuxième suspect en garde à vue à Reims dans l'enquête sur la violente agression dont a été victime un photographe. L'homme s'est spontanément présenté au commissariat. Et puis un géant du ski français prend sa retraite, Jean-Baptiste Grand, deux fois champion du monde de slalom, a décidé de ranger ses skis à 36 ans.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, une journée bien fraîche encore pour demain.
Oui, on va s'intéresser principalement aux températures avec moins 4 à 0 degrés demain matin sur la moitié nord, plus la bise qui va souffler toute la journée, on aura froid. Moins 3 à 8 degrés partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 6 à 11 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 14 dans le sud-ouest et 16 degrés au bord de la Méditerranée. C'est dans le sud, demain, que le ciel sera le plus couvert avec pas mal d'averses toute la journée.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Et à 18h34, on ouvre ensemble le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA, Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro, et Isabelle Horry qui est notre correspondante à Bruxelles et qui est en ligne en direct avec nous. Bonsoir et merci à tous les quatre de m'accompagner ce soir.
Bonsoir.
Alors pour contenir l'épidémie et pour échapper à un reconfinement général, le gouvernement met donc un coup de pression. Il veut accélérer la campagne de vaccination avec désormais les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes autorisés à vacciner. L'exécutif qui est quand même confronté à un problème important, un soignant sur trois seulement aujourd'hui est vacciné. Ça n'est pas normal, a dit hier Jean Castex. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, devait envoyer une lettre au personnel soignant pour les convaincre de se faire vacciner.
j'écrirai une lettre à l'ensemble des soignants de notre pays pour les inciter très fortement à se faire vacciner. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondée, comme il a déjà pu le faire sur des vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou non, à nous dire s'il faut aller au-delà.
Alors Aurélien, bon ça y est, finalement cette lettre, il l'a écrite, hein, Olivier
Véran. Oui, il l'a écrite, envoyée à tous les soignants. Bon alors évidemment, il commence dans cette lettre par les remercier pour leur engagement pour la France. Et puis tout le reste, c'est ça ne suffit pas, ça ne progresse que trop peu. Donc 30% effectivement des soignants et puis 40% des personnels des EHPAD. Ça progresse trop peu, donc si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-vous vacciner rapidement, leur dit le ministre. C'est un petit coup de pression amical avant de devoir peut-être sévir davantage. Vous savez, le gouvernement fait souvent ça. D'abord,
on prépare les esprits.
On dit d'abord, ce serait bien que vous le fassiez vraiment, en se disant que peut-être le petit coup de pression suffira sans avoir à aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Ce qui posera un petit problème pour les soignants, parce qu'on voit qu'ils sont réticents à se faire vacciner contre le Covid, même s'il y a des vaccins obligatoires pour les soignants. L'hépatite B, par exemple, c'est obligatoire. Ouais. Le DTP aussi, diphtérie, tétanos, polio, c'est obligatoire. Mais le Covid, ils ont beaucoup de réticences, notamment à cause du vaccin AstraZeneca.
Des possibles effets secondaires
indésirables dans les jours suivant le vaccin. Donc pour l'instant, ça avance trop peu, comme dirait le ministre de la Santé, mais c'est vrai que c'est un souci parce qu'on a eu les chiffres de la Haute Autorité de Santé qui dit qu'entre début janvier et mi-février, 27 000 Français ont été contaminés au Covid à l'hôpital.
Oui, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que le Covid est aujourd'hui la première maladie nosocomiale qu'on attrape donc à l'hôpital. C'est vrai qu'on n'a pas envie de se dire qu'on va à l'hôpital pour se faire enlever un grain de beauté puis qu'on va tomber malade. Aurélie Herbeau, on le disait, Yves Tréhard, c'est pas sûr qu'elle soit très bien accueillie quand même, cette lettre, par les soignants.
Non, c'est possible qu'elle ne soit pas bien accueillie, surtout qu'il y a soignants et soignants. Mm-hmm. Tout ça, c'est évidemment le corps médical, mais chez les médecins, par exemple, je crois que la plupart des médecins veulent se faire vacciner et acceptent de se faire vacciner. Donc c'est chez les infirmiers, chez les personnes qui sont en charge du transport des malades, c'est dans ces personnels-là que la résistance est la plus forte. Elle est à l'image de ce qu'était la résistance des Français avant que la campagne ne devienne nécessaire et soit nécessaire aux yeux de la majorité d'entre eux.
Oui, on va revenir sur les Français. Mais c'est une résistance au vaccin ou juste à l'AstraZeneca ?
Non, je pense que c'est une résistance, là, en l'occurrence, à l'AstraZeneca, parce qu'encore une fois, il y a eu une erreur de communication magistrale du gouvernement qui a dit, dans un premier temps, que l'AstraZeneca était moins efficace et beaucoup moins efficace que les autres vaccins et que il ne fallait pas, d'ailleurs, l'administrer aux personnes de plus de 65 ans. Badaboum, on change tout, pas plus tard qu'il y a une semaine.
À cause des effets secondaires, encore une fois.
À cause des effets secondaires. Et maintenant, on encourage les gens qui ont 65 à 75 ans à aller se faire vacciner. Le problème, si vous voulez, c'est que depuis le début dans cette pandémie, sur les politiques sanitaires, je ne parle pas de stratégie. Ça, la stratégie, c'est autre chose. La stratégie, c'est de savoir s'il faut fermer, confiner, rouvrir, quel magasin il faut ouvrir ou laisser ouvert. Mais en revanche, sur tout ce qui est politique sanitaire, masque, lit de réanimation, dépistage et vaccination, la parole gouvernementale n'a jamais été limpide, fixe et définitive. Ils ont d'abord été extrêmement prudents, extrêmement précautionneux, alors que là, il fallait justement ne pas attendre pour éviter que l'épidémie se propage. Et moralité, après, ils ont été obligés, devant l'afflux de malades et devant la pandémie qui gagnait en importance, de changer de discours. Et ça, je pense que les Français, la confiance, évidemment, s'était filochée au fur et à mesure.
Vous êtes d'accord avec
ça ? Et ça va être difficile, c'est difficile pour le gouvernement.
Vous êtes d'accord avec ça, Edouard Bessard ?
C'est l'étape décisive, celle-là. Parce que c'est l'étape décisive à quelques mois de la présidentielle. Et la vaccination, c'est vraiment ce qui peut sauver la population. Si c'est raté, parce qu'on est dans un régime de mondialisation, c'est-à-dire qu'on se compare. Et normalement, quand on se compare, soit on se console, soit on se désole.
Edouard Lecerf, vous êtes d'accord avec ça ? C'est la politique sanitaire qui pêche, en fait.
Il y a trois dimensions dans cette affaire de la vaccination des personnels soignants. Il y a naturellement, on l'a dit, les maladies nosocomiales. Donc, il y a une dimension de santé, une dimension sanitaire. Est-ce que, comme vous le disiez, on peut rentrer à l'hôpital Alors, ça arrive, les maladies nosocomiales n'ont pas commencé avec le Covid, ça existe. Mais là, effectivement, compte tenu de la tension sur le sujet, c'est cette dimension-là qui est importante. Il y a naturellement une dimension d'exemplarité. C'est-à-dire que si des personnels, on dit soignants, refusent et repoussent un vaccin, même s'il est aussi focalisé sur une marque, c'est ce qui semble être le cas, malgré tout, l'image que ça peut avoir lorsqu'on va essayer d'avoir le plus grand nombre, alors on voit que ça progresse, mais malgré tout, le plus grand nombre de Français vaccinés, il y a un effet d'opinion qui n'est pas négligeable. C'est des gens
d'exemplarité
qui sont censés...
et de responsabilité
et
aussi.
Et de responsabilité, absolument, vous avez raison. Et il y a une troisième dimension, ils vont parler, c'est la dimension politique. Mais une dimension politique en disant, avec un curseur très sensible, ce sont des populations sensibles, est-ce que l'on va aller vers pousser un peu plus pour montrer que lorsqu'on veut mettre en place une politique vaccinale, une politique de santé, quand on parle de conseil de défense, encore une fois, on est sur des termes assez durs, est-ce que là, on va pousser le curseur jusqu'à obliger? C'est une vraie question qui est à la fois politique, qui va être un marqueur politique.
Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. On partira notamment à Bruxelles, rejoindre Isabelle Horry, à tout de suite. 18h42, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, toujours à mes côtés avec Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA, Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Et on se demandait, il y a un instant, s'il fallait rendre obligatoire la vaccination des personnels soignants. Le gouvernement, on le sait, aimerait bien les convaincre de se faire vacciner davantage. Isabelle Horry, vous êtes en direct avec nous également, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Isabelle, dites-nous comment ça se passe, la vaccination des soignants ailleurs en Europe?
Alors écoutez, c'est en tout cas une priorité pour tout le monde et ça avait été une priorité pointée par la Commission européenne qui veut que d'ici la fin du mois, 80% des soignants soient vaccinés à travers le continent. Donc c'est vrai que tous les pays ont mis les soignants en tête de leur priorité. Ça se passe plutôt pas mal ailleurs, c'est-à-dire qu'en Espagne ou en Allemagne, il n'y a pas de problème particulier pour faire vacciner les soignants. En Italie, cette phase de vaccination, elle est quasiment terminée. Il y a à peu près un soignant sur 10 qui n'a pas voulu se faire vacciner. Et l'idée qui flotte là-bas, c'est plutôt de dire que si jamais ces gens sont malades ensuite du Covid, eh bien, l'institut qui s'occupe des remboursements des maladies au travail pourrait menace de ne pas rembourser en fait, les gens qui n'auraient pas voulu se faire vacciner contre le Covid. Donc peut-être que ça pourrait être aussi une piste à étudier en France.
Qu'en pensez-vous, les grandes voix? Ça pourrait être une piste?
Une piste parce que, pas livrer un témoignage personnel, mais je sais que je connais des gens qui ont attrapé la Covid, dans un hôpital, et certains leur conseillent de porter plainte, parce qu'il y a une personne qui est décédée en plus. Donc évidemment c'est un problème de responsabilité de l'établissement, responsabilité du personnel. Alors, pas des personnels, mais un chef de clinique, il peut être attaqué s'il n'est pas vacciné. C'est sûr que c'est un réel problème. Et on sait aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que la première maladie nosocomiale dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est effectivement la Covid. Donc, c'est un réel souci. Je pense qu'on va le surmonter. Le rappel à l'ordre du ministre de la Santé devra faire de l'effet, impérativement. Et en plus, il y a une telle pression de l'opinion publique, parce que cette opinion publique était plutôt assez réservée au début. Aujourd'hui, elle ne comprend pas. Et encore une fois, on parle souvent des Français qui se divisent les uns les autres. Mais là, c'est un objet de division extraordinaire, vous vous rendez compte?
Alors justement,
entre un personnel de santé qui ne veut pas se faire, qui veut pas se faire vacciner, et puis des Français qui ont quand même la peur au ventre et qui veulent absolument sortir de cette crise.
Justement, au-delà des soignants, où en est-on de l'adhésion des Français en général à cette vaccination? Édouard Le Cerf, je rappelle, vous êtes directeur général adjoint de BVA. On sait que ça a pas mal évolué.
Ça a évolué en France comme dans tous les pays à partir du moment où les injections ont commencé en quelque sorte. C'était très intéressant de voir au Royaume-Uni, alors on était sur des niveaux qui étaient très élevés, mais par exemple aux États-Unis où il y avait des choses qui étaient un peu plus partagées. Dès que les vaccinations ont commencé, on a vu progresser très rapidement l'acceptabilité, en tout cas la proportion d'Américains ou d'États-Uniens qui étaient prêts à se faire vacciner. En France, on a la même tendance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les craintes sur les effets secondaires, alors on voit là qu'elles se focalisent malgré tout sur un vaccin en particulier, mais la crainte des effets secondaires, l'interrogation sur est-ce qu'on n'est pas allé trouver sur les laboratoires, ces choses-là ont tendance à effectivement être un tout petit peu plus mises en arrière. Donc on est aujourd'hui sur une proportion qui a gagné 15-20 points par rapport à là où on en était. Il n'en reste pas moins qu'il y a en France, plus encore qu'ailleurs, parce qu'on partait de très bas, une partie de la population qui ne se sent pas encore prête, qui a un temps de voir, qui se dira peut-être que moi, je dirais, J'allais dire que, presque cyniquement, ça a pu être aussi une chance, d'une certaine manière, pour le gouvernement. On critique beaucoup le gouvernement sur son incapacité à pouvoir déployer les vaccins, à ce qu'il y en ait suffisamment. Mais si vous aviez l'intégralité des Français qui, du jour au lendemain, avaient été frappés à la porte, on n'aurait pas eu assez de vaccins. On n'en a pas déjà, on voit. Donc il y a une forme d'équilibre qu'il faut trouver entre, entre cette montée en puissance de la volonté de se faire vacciner et les capacités. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment où il y a quand même plus de gens qui veulent se faire vacciner que de vaccins disponibles.
Je vous ai interrompu, Aurélie Herbemon, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure.
Et ce qui exaspère un peu au gouvernement en ce moment, c'est qu'on a des frigos là, pleins de dizaines de milliers de doses d'AstraZeneca. Oui. Il y a des Français comme vous et moi, peut-être, qui aimeraient bien se faire vacciner, même avec du AstraZeneca, parce qu'en plus, les dernières études montrent que l'efficacité, ça fonctionne. Et ils sont réservés aux soignants, et les soignants ne les prennent pas. Donc il y a un côté un petit peu, on a des vaccins là, donc pendant longtemps... On n'avait pas assez de doses. Là, on en a, elles ne sont pas utilisées. Vous vous rendez compte? Il y a un côté terrible de se dire, là, on en a. Donc, on en a encore plein qui vont arriver. Parce que, mine de rien, ça va monter en charge quand même au fur et à mesure toutes les semaines. Ce serait déjà bien qu'on puisse utiliser ceux qui sont déjà dans les frigos.
Ouais. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles, je le rappelle, correspondante d'Europe 1. Est-ce qu'on a ce genre de débat ailleurs en Europe ou est-ce que c'est vraiment un débat très, très français?
Alors, le débat sur la vaccination obligatoire, il est différent d'un pays à l'autre. Pas forcément spécifiquement sur le Covid, mais les cultures en Europe sont très très différentes. Par exemple, au nord de l'Europe, ça n'existe pas la vaccination obligatoire, alors que nous, on a certains vaccins qui sont obligatoires, alors que la France, l'Italie, je sais pas, la Grèce, la Belgique aussi sont des pays où ça existe. Les débats, ils ressemblent, que j'entends à travers l'Europe, ils ressemblent à ce qu'on entend en France, et notamment sur ce qu'Aurélie Herbemont vient de dire, c'est-à-dire qu'en Allemagne ou en Belgique, par exemple, il y a le même problème, c'est-à-dire que les vaccins sont là, et puis en fait, ils n'arrivent pas jusqu'aux gens, et ça commence vraiment à énerver beaucoup. Je lisais tout à l'heure dans la presse allemande que par exemple, le Spiegel demande la démission du ministre de la Santé. C'est-à-dire que c'est vraiment en train de monter dans certains pays cette exaspération parce qu'on a attendu les vaccins. On a beaucoup critiqué l'Union européenne pour le fait que les vaccins arrivaient trop lentement. Et maintenant, on réalise qu'il y a aussi un problème du côté des campagnes de vaccination dans de nombreux pays. Donc la France n'est pas très différente de ses voisins en ce moment sur ce point.
Écoutez, ça va nous faire une liaison parfaite pour la suite. On se retrouve dans un tout petit instant. On va continuer de parler de la vaccination. Les vaccins au cœur d'une certaine cacophonie, c'est le moins que l'on puisse dire en Europe. À tout de suite. 18h49, c'est la suite de notre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, toujours avec Édouard Le Serre de BVA, Yves Tréhard du Figaro, Aurélie Herbemont d'Europe 1 et Isabelle Horry également, qui est notre correspondante à Bruxelles. On continue à parler de la vaccination, ou plutôt de la gestion par l'Europe de ce dossier tellement sensible. Aujourd'hui, de plus en plus de pays veulent s'émanciper de la tutelle de Bruxelles pour accélérer leur campagne de vaccination. On a l'impression que la solidarité européenne, en ce moment, elle est mise à mal, Yves Tréhard.
Elle est sérieusement mise à mal parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays d'Europe centrale et le Danemark aussi qui se sont adressés à la Russie, à la Chine, à Israël. Et on sent qu'il n'y a pas un front uni. Alors c'est tout à fait dommageable parce que l'Europe est déjà le bouc émissaire de toutes les politiques nationales, très souvent, et de façon injuste parce que c'est tellement facile de taper sur l'Europe sans savoir exactement de quoi elle est responsable que... Il ne faudrait pas que l'Europe meure ou se détruise sur cet obstacle-là. Parce que nous sommes des nains face à la Chine, face à l'Inde, face aux États-Unis, face d'une certaine façon aussi à la Russie. Et c'est évidemment une arme géopolitique, diplomatique, la Russie. Regardez une chose, le vaccin, une chose qui est tout à fait étonnante. La Russie, vous avez moins de Russes qui sont vaccinés qu'en France. En revanche, la Russie abonde de vaccins. L'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, une partie de l'Europe centrale, l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'ils se servent de ce vaccin. Ils sont fiers d'avoir découvert le vaccin là où nous, les Français, qui sommes pourtant historiquement, je veux dire, la nation de Pasteur, eh bien, ils inondent le monde de vaccins, alors que leur population, elle, se fait très peu vacciner, ou ils l'obligent très peu à se faire vacciner. C'est vous dire combien c'est une arme. Et si cette arme-là, l'Europe, qui n'a pas réussi à mettre un vaccin au point, il faut le dire, c'est-à-dire que seule l'Union européenne n'a pas mis un vaccin au point. On ne peut pas parler de la Grande-Bretagne puisqu'elle est sortie de l'Union européenne. Eh bien, seule l'Europe n'a pas mis de vaccin au point. Et en plus, c'est désorganisé dans les campagnes de vaccination.
Isabelle Horry à Bruxelles, terrible. Je sens que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Yves Tréhard.
Non, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que C'est une arme, effectivement, le vaccin, c'est une arme de communication et c'est une arme politique. Parce que vous dites que la Russie fait ce choix d'envoyer des vaccins ailleurs. Pour l'instant, on n'est pas très sûr qu'elle envoie beaucoup de vaccins ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a réussi à envoyer quelques caisses pour qu'ils soient filmés par les caméras à l'arrivée. Mais on va voir si elle est capable de livrer les millions de doses qu'elle a promis à travers le monde. Et ça, là-dessus, il y a quand même des incertitudes. Côté européen, je trouve qu'on est, faut être clair, on est assez nul en communication. Ça, c'est clair. C'est évident parce que finalement, il y a quand même 2,5 milliards de vaccins qui ont été commandés. Ils vont donc arriver. Et chaque jour, ou presque, moi, je fais à l'antenne des papiers sur le fait que voilà, tel ou tel pays européen s'intéresse à la Russie, à la Chine, etc. En sachant que ces vaccins-là, ils arriveront plus tard que les vaccins que l'Europe a déjà commandés. Mais le message ne passe pas. C'est vraiment frappant. Alors, il y a eu des erreurs commises par l'Union européenne. On ne va pas revenir dessus. Mais moi, je suis vraiment frappée en ce moment par la nullité de la communication des Européens.
Et on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la France, hein, Édouard Le Cerf. C'est encore une fois la communication qui pêche. Hein.
Ah là, on est effectivement sur un vrai, vrai problème de communication parce que, en étant encore une fois peut-être un peu cynique, c'était une occasion formidable pour l'Europe de montrer à quel point quelque chose qui touche toutes les populations était un moyen de transformer tout ce que sont les représentations de beaucoup d'Européens et des Français notamment, une institution qui est loin des préoccupations des individus, une administration extrêmement lourde et incapable de prendre des décisions rapides, parfois traversée par du lobbying, manquant de solidarité, d'efficacité et de capacité à rendre très concret un sujet qui permet d'aller mieux, que la vie de tous les jours aille bien. On avait là un exercice, non pas rêvé, hein, c'est un peu un cauchemar, mais en tout cas on avait la possibilité de démontrer quelque chose. Et dans l'image, alors je reviens sur ce que disait votre correspondant à Bruxelles, c'est vrai, dans l'image, dans la perception qu'il y a aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a un sentiment que soit ils sont incompétents, soit ils sont traversés par du lobbying et que finalement ils se laissent avoir par les laboratoires, on voit des manques de solidarité dans les décisions, en tout cas telles que c'est perçu. Donc, en gros, tout ce que l'on avait déjà à l'esprit chez un certain nombre de concitoyens et d'autres Européens sur l'image que pouvait avoir l'Europe, eh bien, on n'a pas réussi à changer le curseur. Au contraire, ça a un tout petit peu précipité encore les choses.
Et alors, est-ce que ça affecte aussi, Aurélie Herbemont, dans la foulée, dans l'effet boule de neige, le gouvernement français? Est-ce que ça, c'est, les gens, du coup, se disent sa gestion ne va pas, alors que peut-être, finalement, tout ça, ça n'est qu'au niveau de l'Europe que ça ne marche pas.
Le problème, c'est que c'est révélateur d'un vrai problème de l'Union européenne et qu'on voit, dès qu'il y a des crises, c'est que le chacun pour soi revient extrêmement vite. Donc là, effectivement, quand vous êtes en France et que vous entendez, les Hongrois, ils ont commandé des vaccins russes, les Danois, les Autrichiens, ils commencent à faire des recherches avec Israël qui n'a pas produit de vaccin d'ailleurs, hein, donc là ils vont se mettre à chercher, mais Israël a fait une campagne de vaccination sans doute la plus performante au monde, mais ils n'ont pas fabriqué de vaccin.
Ils ont acheté des vaccins américains.
Ils ont acheté des vaccins américains. Et donc là, on voit le chacun pour soi qui revient. Donc du coup, forcément, politiquement, c'est compliqué. Vous avez des partis, je pense au hasard, Marine Le Pen qui dit « il faut faire comme les autres, on est prisonniers de l'Europe. Nous, on joue les bons élèves à faire uniquement en ne commandant que les vaccins dans les clous, ce qui est fait via l'Union européenne. » Donc forcément, c'est un rebondissement sur la politique française parce que ceux qui ne sont pas fans de l'Union européenne disent « Pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé dans ce schéma de commander des vaccins avec l'Union européenne alors que le but, c'est d'abord de protéger la population française et pourquoi est-ce que nous, on ne commande pas des vaccins ailleurs ?»
Le Brexit aujourd'hui, chez les Anglais, lorsque vous posez la question, parce que des gens qui n'étaient ni intéressés vraiment à ce que c'était bien ou pas de sortir de l'Union européenne, aujourd'hui, la première preuve du Brexit, terriblement, c'est qu'ils vont beaucoup plus vite que les autres. Ouais. Et donc, naturellement, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet, il y en a sans doute un petit peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Europe contre le Brexit, vaccination d'un côté, vaccination de l'autre, dans l'image, c'est un peu difficile pour l'Europe.
C'est la même chose, Isabelle Horry, dans d'autres pays d'Europe, on imagine, hein, cette petite musique qui monte, qui dit finalement on aurait dû faire chacun pour soi.
Écoutez, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a cette musique. En même temps, tous les pays qui parlent politiquement et qui médiatiquement font des gestes vers Moscou, Pékin ou vers Israël, ces pays n'ont pas renoncé à leur dose européenne. Ces pays sont toujours dans le système et ils attendent les doses. Donc, il faut bien imaginer que partout ailleurs, on fait aussi de la politique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, attention, ce n'est pas Bruxelles qui a négocié au nom de l'Europe. C'est Bruxelles avec un certain nombre de pays, au premier rang desquels la France. Et la ministre de l'Industrie a répété plusieurs fois qu'elle avait négocié elle-même 3 des contrats. Donc je pense qu'il faut, bien faire attention à ne pas pointer le doigt vers des fonctionnaires bruxellois, des eurocrates bruxellois. Ça a été un processus auquel les États membres...
C'est la représentation que peuvent en avoir les Français.
Voilà. Vous avez raison. C'est un échec collectif des États membres et des institutions. Non, je veux dire ça parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à penser que c'est eux et pas nous. Mmh. Et je pense que c'est un échec pour qui nous concerne aussi.
C'est bien de le dire, il fallait le dire. On vous remercie pour cela aussi, Isabelle Horry. Merci à vous, les grandes voix du vendredi. On se retrouve très vite dans un instant.
Merci.
C'est le journal, les infos, le journal de 19h de Christophe Lamarre. À tout de suite.